Bienvenue à 93,8 MHz. Débat aujourd'hui avec l'Europe et la formation professionnelle des jeunes. Un débat présenté au Salon international du livre de la presse à Genève dans le cadre du village alternatif le 30 avril dernier. Radio Zone, bien sûr, y était, il a enregistré pour vous le présenter avec aujourd'hui, eh bien, Giulia Abriel, qui est membre comme permanente du Centre de contact suisse émigré, et Achille Renaud, qui lui est permanent à le syndicat du bois et du bâtiment à Lausanne. Animation, notre animatrice Catherine S. Vous connaissez très très bien dans Remue-Ménage, chaque mercredi de 17h à 18h30. Je vous rappelle qu'au Salon du livre de la presse, eh bien, vous pouvez donc vous y rendre encore, car cette cassette sera diffusée. Eh bien, le salon durera toujours. Vous pourrez donc notamment suivre des débats le samedi et le dimanche. Le samedi, eh bien, à 10h, les Kurdes silencent sur un génocide. À 11h, où on est l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. À 13h, les femmes et l'Europe ont joué perspective. À 14h, sur l'Asie, notamment le Tibet et l'Inde, droits de l'homme et droits des peuples. Enfin, faut-il boycotter le commerce du bois tropical? C'est à 15h et à 16h, un grand débat sur développement et environnement sont attendus. En tout cas, René Longet et René Dumont. Et puis à 17h, que sont devenus les Indiens Mayas? Un débat important avec des chercheurs du CNRS et des Indiens Ixils. Ensuite, Genève Autrement, à 18h, avec Radio Zone, on vous présentera La Presse Autrement, avec André Gazu, réalisateur et producteur de Temps Présent, Patrice Mine, journaliste, au Courrier de Genève, Juan Gasparini, à Véro Réalité, et Jean Musi, Radio Zone. Vous y retournerez très certainement le dimanche pour suivre des débats sur le GATT, des débats aussi sur 1492, les effets de l'évangélisation chez les peuples amérindiens, les dépenses militaires et les crises sociales en Suisse, quel choix à 14h, la promotion de la santé en Cisjordanie et la bande de Gaza à 15h, l'avenir des poulets légionnaires à 16h et enfin tourisme sexuel et sida à 17h le dimanche. Voilà, des débats très riches. Il y en a eu au total 40 sur ce podium du village alternatif. Si vous désirez des copies de ces débats, bien composez tout de suite et sans attendre le 50 40 51 41. Je répète, même avec peu de voix, 50 40 51 41 023 depuis la Suisse voisine. Et bien avec nous, Catherine S, à qui je laisse la place. Jean Pélichon vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit.
On essaye de situer où en sont les choses, parce que le thème de notre débat, c'est l'Europe et la formation professionnelle des jeunes. Mais peut-être très concrètement aujourd'hui, quelles sont les chances pour les jeunes d'accéder à une formation professionnelle en Suisse? Quelle est la situation des choses? Et qu'est-ce que l'Europe, si la Suisse s'intègre à l'Europe, qu'est-ce que cela va changer à la situation que nous vivons aujourd'hui? Alors peut-être, Monsieur Achille Renaud, vous pourriez peut-être, vous qui connaissez bien au sein du syndicat cette situation, qu'est-ce que l'on peut dire?
Bien, je commencerai peut-être par un retour en arrière. Et comment se passe la formation en Suisse pour les apprentis? Donc il existe plusieurs formes d'apprentissage qui peuvent partir d'une formation dite élémentaire. Par exemple, un jeune qui sort de l'école, et on reviendra après sur qui sont les gens qui partent en apprentissage, quelles sont leurs chances. Ensuite, une fois qu'ils ont trouvé leur place d'apprentissage, suivant les résultats qu'ils ont eus à l'école, on va leur conseiller soit de faire une formation élémentaire qui consiste à une simple des cours pratiques, en fait, où on leur dispense les cours théoriques et les formations de culture générale, ou alors ils font un apprentissage dit normal de 3 ou 4 ans, coupé dans la semaine par un jour ou deux jours de cours, pour accéder à un certificat fédéral de capacité. Vis-à-vis de l'Europe, bien que la formation suisse soit louée, a été en tout cas louée par les autres pays jusqu'à ce qu'on arrive aux normes européennes, on s'est rendu compte qu'après l'apprentissage, il n'y avait rien qui avait été mis sur pied pour un perfectionnement. Dans ce sens, l'OFIAMT, sous pression des divers milieux des professions, a mis sur pied un rapport avec certaines propositions. Alors il y aura lundi prochain une conférence de presse de l'OFIAMT sur ce rapport. Là, j'ai quelques données de ce rapport.
En mais fait, peut-être juste, excusez-moi de vous interrompre, mais peut-être juste avant de parler de ce qui risque d'être du futur, essayons de faire un petit bilan de la situation actuelle. Est-ce que les jeunes aujourd'hui qui ont fini leur formation scolaire obligatoire et qui aimeraient faire une formation professionnelle ont facilement accès à cette formation professionnelle? Et puis, est-ce que les chances sont égales pour tous? Je crois qu'on peut déjà dire que non, donc il faudra faire le bilan de cette situation. Mais peut-être, est-ce que tout jeune qui aimerait aujourd'hui avoir une formation professionnelle peut facilement l'obtenir? En Suisse, aujourd'hui, 1992.
Je crois que tout jeune qui rentre dans un apprentissage a des fortes chances d'arriver à terme, mais dans quelles conditions? C'est-à-dire que déjà depuis le cycle, bon, pour nous, le canton de Vaud, ça s'appelle, en l'occurrence, souvent les apprentis sortent de l'école primaire, passent par un orientateur professionnel qui lui-même est soumis aux pressions économiques. Alors beaucoup qui ont eu un échec scolaire partiront dans la construction, donc une dévalorisation du métier, et il va dès le premier jour prendre conscience qui fait partie d'un milieu économique à qui finalement ce n'est pas si important que cela qu'il ait une excellente formation. Quand on parle des cours de formation, genre Leipzig pour le canton de Vaud ou le CEPIA ici à Genève, là la formation est carrément catastrophique. Et catastrophique parce que l'apprenti se rend très vite compte qui va être sur le marché du travail et que finalement ce suivi de l'école normale n'a pas une grande importance. Vous prenez par exemple les dernières directives du canton de Vaud, où maintenant on a mis sur pied cette formation élémentaire, où carrément on a enlevé les cours théoriques aux apprentis. C'est-à-dire qu'un apprenti peut, en rentrant dans un apprentissage, se dispenser des cours théoriques. Alors, comment vous voulez que cet apprenti se disent, je fais un métier qui est important, qui est un bon métier, si d'entrée on lui fait comprendre que finalement, seul compte la pratique et que tout ce qui est culture générale qui va lui donner une certaine assurance à lui-même, qui va lui permettre par la suite d'accéder à d'autres postes, si on lui fait comprendre que ça, il peut le laisser de travers. Et ça, c'est particulièrement grave.
Quand vous dites l'Office de formation professionnelle, Julien Labriel, vous êtes confronté aussi à l'Office de formation professionnelle à Genève. L'office est soumis à des pressions économiques. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, peut-être pour le canton de Vaud et ensuite pour le canton de Genève?
Alors, si vous voulez, il y a. C'est clair qu'en Suisse, on a cette peur des crises économiques, cette peur constante du chômage. Et on va pousser l'apprenti. C'est un des premiers critères quand on conseille un apprenti. C'est vis-à-vis du chômage. C'est-à-dire, prenez cette profession-là, pas forcément parce qu'elle vous plaît, mais vous êtes sûr d'avoir une certaine sécurité. Alors, à partir de là, on a eu un gros boom de la construction, on a eu un mal fou à trouver des apprentis de la construction, et il y a eu tout un battage avec ce principal slogan. Mais qu'un slogan qui veut strictement rien dire, Si cet apprenti, on le forme uniquement à faire du bétonnage, par exemple, parce qu'il va il va faire du coffrage, il va être un manœuvre qualifié, mais que dès que, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, qu'il y a un bouleversement qui s'effectue et qu'on cherche des spécialistes, eh bien, ils vont être relégués en troisième zone et vont être, eux, en termes de demandeurs, alors qu'on leur a fait croire qu'ils seraient l'élite, puisqu'ils feraient partie de cette minorité qui a une qualification en Suisse.
Julien Abriel, comment vous ressentez vos rapports avec l'Office de formation professionnelle? Est-ce que c'est un peu le même discours que ce que M. Renaud parle dans le canton de Vaud? Est-ce qu'on sent qu'il y a aussi cette façon systématique de diriger les jeunes vers les métiers dont on sait qu'il y a pour l'instant des débouchés?
Oui, certainement qu'il y a le même problème que le canton de Vaud peut rencontrer. Je dirais que par contre, l'accès à la formation professionnelle, elle n'est pas un droit pour tous, et je me réfère à un tout petit historique. Genève a été un canton dans les premiers qui ont accepté les enfants sans statut légal, donc les enfants en âge donc d'école obligatoire. Donc ça a été tout à fait officialisé. Et tous les enfants, indépendamment de leur statut, font l'école obligatoire. Maintenant, quand ils sortent à 15 ans, qui n'ont toujours pas de statut, c'est là que ça se pose des gros problèmes, puisque pour tous les étrangers qui désirent travailler en Suisse, il faut une autorisation de séjour. Et pas seulement l'autorisation de séjour va donner droit à l'apprentissage, parce que l'apprentissage est considéré par l'OLE, donc l'Office de la... de l'OLE, donc... comme une première prise d'emploi. Ça veut dire que le jeune qui est bien détenteur d'un permis B, qui est un détenteur de permis B à l'année, n'a pas forcément accès à la formation professionnelle. Et ceci, c'est là où je viens peut-être une certaine critique par rapport à l'EFP, mais parfois aussi malheureusement par rapport au syndicat, où il y a une protection trop forte pour la main-d'œuvre indigène. Et que c'est vrai qu'un permis B qui rentrerait pour la première fois dans le marché du travail, et y compris l'apprentissage, puisque c'est sous le même niveau, il risque de n'avoir pas de place. Et pour nous, centre de contact où notre population, elle est absolument donc étrangère, on se trouve face à des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans, à la rue, avec malheureusement... des problèmes très tôt de délinquance, parce qu'un jeune de 15, 16, 17 ans, être à la rue, je pense que ce n'est pas possible de pouvoir avoir un projet, de pouvoir bien vivre sa vie. Et cela, on essaye de sensibiliser maintenant tous les milieux, d'abord pour savoir si effectivement l'apprentissage est une activité lucrative, alors que pour moi, le terme apprentissage devrait être une forme d'école. On a demandé un avis de droit pour connaître cela, et dans 15 jours à 3 semaines, on verra si cela a été possible. Mais c'est vrai qu'on souhaiterait, et de la part de l'EFP, et de la part surtout des syndicats, à qu'ils se penchent un peu plus sur le jeune étranger, qui n'est plus du tout une minorité aujourd'hui, mais qui va être bientôt le 50% des jeunes apprentis.
Je crois, Juliana Abriel, qu'il faudrait que vous précisiez peut-être effectivement le type de discrimination, des exemples, parce que vous rencontrez tous les jours au centre de contact de ces jeunes. Ils viennent vous demander de l'aide, que visiblement ils trouvent peu à l'Office de formation professionnelle. Quels sont les obstacles essentiels qu'ils doivent surmonter? Vous avez parlé de permis. Qu'est-ce que cela veut dire pour un jeune d'obtenir un permis? Pourquoi ne l'a-t-il pas d'office avec sa famille?
Alors, ces jeunes, ils émanent au 85% de ce qu'on appelle le regroupement familial, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 18 ans, pour l'immigration traditionnelle, italien, espagnol et portugais, peuvent avoir le permis jusqu'à l'âge de 20 ans, alors que pour les Yougoslaves, dont aujourd'hui ils sont passés aussi dans le fameux troisième cercle de l'immigration, ça va jusqu'à 20 ans. Ces deux années, effectivement, sont encore des handicaps encore plus forts pour cette population-là. Et que dans le cadre d'avoir le permis, je donne un exemple, et c'est comme ça très très souvent. Le père a déjà demandé la transformation de permis A, donc saisonnier, en permis B. Là, une fois qu'il détient le permis B, si les conditions du logement et du revenu puisque le permis B face au regroupement familial n'est pas un droit, mais c'est il peut faire venir sa famille à condition de, eh bien, ce jeune, potentiellement, dans les 6 mois, une année, peut-être une année et demie, c'est vrai qu'il va obtenir le permis B, mais il ne l'a pas dans les mains au moment où il cherche un apprentissage. Et là, alors, c'est ce que je disais avant, les deux instances avec lesquelles moi je travaille, c'est l'Office de la formation professionnelle, mais parfois malheureusement aussi des syndicats, ils ne protègent pas ces jeunes. Un exemple qui a paru d'ailleurs dans la presse, une jeune fille qui obtenait son permis B dans les quelques mois qui suivaient. Elle a été acceptée auprès donc, d'un employeur comme aide pharmacienne parce qu'elle était tout à fait apte et cet employeur voulait cette fille. On sait que parfois il y a des attentes du côté suisse ou permis C qu'on ne sait pas très bien pourquoi ils n'ont pas répondu à cette place. Eh bien, cette fille, on a fait des chicanes pendant des mois et des mois parce que sur les papiers, malheureusement, il semblait que 3 Suisses étaient en attente dans la profession. Et cela, moi, je trouve scandaleux.
Est-ce qu'au sein des syndicats, alors, vous sentez aussi cette discrimination? Est-ce que vous êtes amené à défendre le cas de jeunes qui subissent des discriminations comme ça? Madame Julien Abriel vous adresse un peu une critique, là. Comment vous répondez à cela?
Écoutez, bon, c'est clair que je ne peux être que d'accord avec ces témoignages-là. Je les vis aussi tous les jours. Par contre, je crois que l'image est faussée dans ce sens. Que bon, on ne va pas retracer ici toutes les péripéties d'un saisonnier qui vient en Suisse. Et on connaît la position des syndicats sur le statut des saisonniers. Ceci est la première chose. Mais la seconde, quand j'ai affaire à des jeunes, vous savez, il y a 2 semaines, j'étais en France, visiter l'entreprise Bouygues, donc, qui possède, c'est une multinationale, et j'en suis revenu choqué en pensant à tous ces jeunes apprentis qu'allaient être un jour confrontés à ce genre de multinationales, de par leur formation, parce qu'elle est insuffisante. Ils ne feront pas le poids par rapport à la formation de la construction en France. Ils ne feront pas le poids, ils seront mis sur la touche. Mais quant aux jeunes étrangers, issus, qui par exemple, une famille qui a le permis B, qui fait venir ses enfants, tous les jours, je leur dis, écoutez, il existe un article 41 qui vous permet de faire une formation suisse, d'avoir un CFC, et ça vous donnera beaucoup plus de chance. Il y a un refus total. On a des bourses pour ces gens-là, on les pousse à se perfectionner, et je crois que c'est l'essence même d'un syndicat. On a conscience de ce que veut dire une formation, est-ce qu'elle permet à un ouvrier, elle lui permet en tout cas de se défendre et de se vendre vis-à-vis d'un employeur. On les pousse à suivre des cours, à faire des cours le samedi matin, à faire une formation avec l'article 41 qui permet. Donc, juste pour dire ce qu'est l'article 41, à un ouvrier de suivre des cours et au bout de certaines années, il obtient son CFC. Qu'est-ce qu'on a en face de nous? Des gens qui nous disent non. Non, parce qu'il y a une pression, et ça vous oubliez de le dire, il y a une pression de la famille qui ont passé par un certain chemin et qui font reproduire ce chemin-là à l'intérieur des communautés étrangères. Et des jeunes qui se disent bon, bah, finalement, eh bien, je vais suivre le même chemin que mon père qui s'en est pas si mal sorti. C'est vrai qu'il a été possible pour beaucoup d'étrangers qui venaient en Suisse sans formation d'accéder à un certain niveau de vie tout à fait respectable, mais ça ne va plus être le cas pour ces jeunes-là. Alors soit aujourd'hui ils prennent conscience que pour s'en sortir, il faut qu'ils suivent une formation et qu'ils se donnent toutes les chances d'accéder à un CFC, un certificat, et de continuer par la suite. Mais ce n'est pas notre travail, je crois, en tant que syndicat, de jouer au papa qui donne une fessée à son fils parce qu'il refuse de suivre une formation. Je crois pas. Je crois que beaucoup d'organisations tombent dans ce piège-là comme ça, peint le diable sur la muraille, attention, attention, et sans donner l'envie et faire comprendre aux jeunes ce qui les attend par la suite.
Non, mais moi, j'aimerais répondre que vous n'avez pas répondu à ce que moi j'émettais comme critique. Le jeune étranger qui est rentré dans la filière de l'apprentissage, je dirais qu'il n'y a pas de discrimination, si ce n'est que sur la classe sociale. Et là, on pourrait retrouver même des jeunes Suisses dans la même situation. Ce que moi, je reproche, c'est l'accès à la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire que tous les jeunes qui sont à Genève ont la même chance d'accès à la formation? C'est-à-dire, quand moi, je pense aux jeunes dans le cadre de regroupement familial, à court terme, même pas à moyen terme. Quand je pense au permis B de plus de 18 ans qui passe devant la tripartite et que si dans le domaine où lui il est, il y a une probabilité de chômage, il n'est pas pris. Ou bien s'il y a des Suisses ou des permis C, il n'est pas pris. C'est cela la critique. Je ne parle pas de l'article 41 par la suite. Alors, on pourrait par la suite venir savoir si les jeunes migrants sont à l'auteur au niveau scolaire, et là c'est absolument le même handicap tout aussi fort que juridique, mais c'est un autre discours. C'est la famille qui n'est pas prête, qui ne connaît pas le système suisse de l'apprentissage. C'est exact, je le rencontre tous les jours. Mais ce que je voudrais d'abord dire, faisons tomber les barrières juridiques pour l'accès à la formation professionnelle, pour qui celui, et moi j'en ai au moins 5 ou 6 en attente aujourd'hui, qui sont aptes à faire un apprentissage, mais qui n'ont pas dans la main encore le permis B, ou qu'il y a des gros, et comme par hasard, c'est plus des Yougoslaves que des Portugais, et ces jeunes traînent depuis 2 ans, voire 3 ans, et aujourd'hui, quand peut-être finalement j'arriverai à lui trouver quelque chose, ils sont dégoûtés, ils n'ont plus envie, et ils ont goûté au travail au noir, et ils me disent, écoutez-moi, maintenant, faire un apprentissage à 20 ans, ça ne m'intéresse plus. Alors qu'il y a 3 ans, c'était absolument des très bons apprentis. C'est l'accès que j'ai dit bien, qu'il y a une discrimination. Ce n'est pas au moment où ils sont dedans. Ils sont dedans, c'est la chance que tout le monde a, ou la malchance. C'est l'accès, je le répète.
Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que ça veut dire que pour ces jeunes immigrés, on considère que leur formation, leur apprentissage serait la prise d'un premier emploi?
Alors, c'est là un des problèmes. Et l'OFIAMT, d'ailleurs, on attend aussi une réponse de l'OFIAMT. Elle est absolument contradictoire parce que paraît-il qu'il n'y a pas de contradiction, d'empêchement aux jeunes dans le cadre du regroupement familial pour rentrer en apprentissage. Mais de l'autre côté, l'apprentissage est une première prise d'emploi, donc l'autorisation de pouvoir travailler pour la première fois. Alors on va essayer de débrouiller cela avec un avis de droit, et puis peut-être, alors là, les soutiens des syndicats, on y compte beaucoup, et de l'OFP aussi.
C'est peut-être, on revient là au tout début de ma première question, quand je vous demandais quel est l'état des chances d'accès à la formation, parce que d'imaginer qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, et on ne peut pas l'ignorer, à la fois des jeunes Suisses qui veulent accéder à une formation en sortant d'une filière normale scolaire, il y a des jeunes immigrés avec tous les problèmes dont on sait qu'ils existent encore de regroupements familiaux, et puis il y a cette troisième couche de jeunes qui sont les jeunes réfugiés, qui arrivent parfois seuls sans leur famille, qui sont les jeunes du tiers-monde que l'on pourrait faire venir pour leur proposer une formation professionnelle, et ensuite ils repartent chez eux. Alors comment arriver à faire vivre tous ces jeunes qui demandent, qui ont une demande?
Mais juste là, d'autant plus qu'on sait, et puis je vous laisserai vraiment la parole, qu'il existe à Genève en tout cas des permis B étudiants. Donc on discrimine les apprentis par rapport aux étudiants. Quand si on ferait le petit lien avec l'Europe, à peu près, sans trop me tromper, on commence à sentir que le chômage, il est plutôt de niveau universitaire et pas de quelqu'un qui a une formation manuelle et de qualification. Alors moi, je me dis, mais il y a quelque chose, une politique qui ne fonctionne pas. On donne des permis B étudiants pour des universitaires et on ne donnerait pas, un exemple, c'est ce qu'on propose un peu au centre, un permis de formation. Et j'ai dit que peut-être là derrière, c'est toujours cette fameuse protection de la main-d'œuvre indigène. C'est une explication et c'est la mienne.
Mais est-ce qu'il y a aussi derrière ce problème-là, le problème de quelle formation donner? Parce que quand vous dites on favorise l'obtention de permis B pour les étudiants et ça semble difficile pour les formations professionnelles, est-ce que ça veut dire que systématiquement il y a un poids qui fait qu'on dirige les jeunes essentiellement vers des formations plus intellectuelles et qu'il y aurait une sorte de discrimination à l'égard de proposer des formations professionnelles manuelles par exemple et de déqualifier ces formations comme vous le disiez au tout début?
Bon. De toute manière, je crois que chaque jeune qui rentre en apprentissage rentre avec une impression, disons pour le 75% d'échec dès le départ. C'est-à-dire que depuis tout petit, on lui fait comprendre que l'apprentissage, c'est en cas d'échec scolaire. D'accord ? Puis ensuite, comment voulez-vous qu'un jeune de 16 ans, 15 ans, puisse savoir si jeune... quel est le métier qu'il va faire toute sa vie. Donc, il choisit celui pour lequel il a plus de goût en se disant, eh bien, c'est un passeport parce que dans les écoles professionnelles, c'est un langage qui est tenu. Prenez ça plus comme un passeport pour la suite que pour une véritable formation professionnelle. Et beaucoup d'apprentis sortent avec cette impression qu'ils ont juste un papier qui peut leur permettre d'assurer un certain salaire. Mais que après ça, il n'y a pas de continuation. Ça, c'est le problème de la formation en Suisse et cette protection indigène que vous disiez tout à l'heure. On arrive aujourd'hui avec ces grandes questions. C'est vrai qu'il y a une protection indigène, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait été faite par les syndicats. Je crois qu'elle a aussi été faite par les travailleurs eux-mêmes en se disant j'ai un emploi en Suisse qui est assuré. Donc le travailleur ne se rend pas forcément compte des conséquences de ne pas faire cette formation-là. Et c'est vrai que ça a été comme ça jusqu'à, disons, jusqu'au début de cette crise. On en est qu'au début, ça continue à augmenter et il va y avoir un choc terrible. Un choc terrible, je veux dire. 48% de la population n'a pas de formation véritablement professionnel.
Mais j'ai la sensation que, par exemple, de plus en plus d'examens d'entrée aux apprentissages sont nécessaires. Hein? Il y a des barrières de sélection de plus en plus fréquentes, voire presque toutes les professions, je crois, et qui sont souvent très scolaires. Donc, on pense que les jeunes doivent avoir un niveau de scolarité très élevé pour pouvoir faire une formation professionnelle. Et par ailleurs, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, on arrive à leur supprimer les cours techniques pendant la formation professionnelle. Est-ce que ce n'est pas une chose éminemment contradictoire ?
Alors, il y a une prise de conscience de la part des gens qui s'occupent de la formation professionnelle de se rendre compte de cette déqualification-là, d'où ces examens préliminaires avant d'entrer en apprentissage, pour voir un peu qui est l'apprenti, est-ce qu'il est fait pour ce métier-là. Et je pense que ces examens sont importants. Je pense qu'ils permettent aussi à l'apprenti de se dire, ben tiens, il y a un examen, on ne rentre pas si facilement dans un apprentissage, il y a quelque chose qui existe, ça lui donne un premier aperçu et ça revalorise la profession future. Ça, c'est le premier point. Mais c'est en décalage total du moment où il est dans la formation, où là, il se rend compte que les milieux économiques, eux, ne tiennent pas forcément à cette qualification-là. Ils n'ont pas, en tout cas dans les métiers de la construction, forcément, ils n'ont pas le désir profond que ces apprentis soient véritablement formés, qu'ils soient véritablement formés, on voit il faut le rendement de la part de l'apprenti. Et ce rendement est terrible. Moi, j'ai vu... moi, j'ai été apprenti maçon. Croyez-moi, c'est 3 années d'apprentissage où vous vous rendez bien compte que vous rapportez énormément. Mais le métier, il se vole. Et je ne crois pas que c'est le travail d'un apprenti que de voler son futur métier. Je crois qu'il doit être pris en charge par un responsable ou par un contremaître qui doit lui enseigner son métier sur place. Mais toute cette formation, elle est faite par lui-même, pour autant qu'il ait encore cette volonté-là. Il y a un taux de déchets d'apprentis qui arrêtent leur apprentissage, mais qui est affolant. Et moi, j'enseigne, on donne un cours aux apprentis sur les conventions collectives. C'est le premier argument qui sort en disant on est apprenti Il y a un sentiment d'exploitation en se rendant compte que bon, ils sont là, ils visent leur CFC, mais que le métier, ils l'apprendront après, une fois qu'ils seront reconnus en tant que travailleurs. Mais que là, ils sont une main-d'œuvre bon marché, finalement. Et ça, ça pose un problème chez les apprentis, de se dire, bon, à l'école, les profs arrivent en ouvrant le matin, parce que quand on ouvre la tribune de Genève, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai vu dans l'école professionnelle. Des profs qui viennent, voilà, ils posent le journal en disant, bon, bah, faites ce que vous voulez. Alors, pour les apprentis, c'est une journée de congé. Puis quand ils arrivent sur le chantier, c'est l'appel pour des petits travaux. Et à toi de te débrouiller pour voler ton métier, pour apprendre les choses. Et la formation pratique, qui se fait donc dans les écoles professionnelles, a un retard par rapport à la réalité du travail d'au minimum 20 ans. De ce que vous apprenez à l'école n'a plus rien à voir du tout avec votre métier à proprement dit.
Voilà. Juliana. Justement, on revient maintenant alors sur l'autre problème de non-accès à la formation professionnelle par rapport aux jeunes migrants, c'est le manque de scolarisation. Une des raisons, et moi je tiens à le dire, ces jeunes, ces dernières années ont été pendant très longtemps clandestins, ils n'avaient pas eu droit à l'école, ils ont fait une scolarité absolument hybride, et cela, je crois que, et là je sais que les syndicats sont contre le statut du saisonnier, mais la réalité ça fait qu'on a abîmé toute une génération même sur l'école obligatoire, et qu'aujourd'hui quand ils sortent de l'école obligatoire, ils ont des manques. On regarde au poste obligatoire, 60% sur 100 jeunes, 60% ils ont un niveau de 4e primaire et les 40% restants d'un 6e, 7e primaire. C'est évident qu'ils ne peuvent pas faire un apprentissage au même titre qu'un jeune qui sortirait de 9 là. Parce que s'il n'y a pas cette formation-là, de toute façon, c'est le travail au noir est tout aussi exploité. Et plus encore, la population que j'ai, c'est des jeunes qui souvent à 12 ans ont commencé à travailler, qui savent très bien travailler manuellement, mais qui ont des difficultés intellectuellement. Pourquoi, ensemble, et je retourne toujours vers les syndicats, on ne pourrait pas développer de plus en plus l'apprentissage pratique? Ce sont 3 années avec attestation. Pratiquement, je crois que leurs métiers vont bien l'apprendre. Et puis, si quelqu'un a envie de continuer pour faire l'article 41, ben, il le continuera. Et s'il n'a pas envie, il reste avec un métier. S'il retourne dans son pays, ce sont des métiers qui sont absolument bien reconnus. Et moi, je crois qu'il y a encore, on a du retard, effectivement, mais on a du retard aussi politiquement de donner des chances à leur portée, à tous les jeunes, indépendamment du statut, indépendamment de la nationalité, et traiter les jeunes comme des jeunes avec les mêmes chances.
Mais ce que vous proposez, Julien Labriel, c'est un petit peu une formation à deux vitesses. Est-ce que, dans le sens, il y a à la fois ceux qu'on aimerait qui reçoivent une formation professionnelle assez poussée, et puis il y en a ceux dont on pense qu'on pourrait leur proposer une profession strictement manuelle par rapport à une efficacité de rentabilité directe. Est-ce que ça, c'est pas un danger en même temps? À la fois, ça pourrait être profitable pour les jeunes dont vous parlez, mais ça peut être un danger dans le sens où tout le monde va être associé à cette formation-là.
Non, j'aimerais justement, et c'est pour ça qu'il faudrait la collaboration absolue des syndicats, pour qu'eux contrôlent que ça ne se passe pas une formation à deux vitesses. Mais il faut être réaliste quand même. Le jeune qui a un niveau de quatrième primaire, et des fois il n'a même pas les 4 opérations, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer d'autre que d'abord un apprentissage pratique? On ne va pas lui faire casser la gueule sans arrêt. Les premiers 6 mois ou 3 mois au CEPIA, il est fini, il est découragé, il est un échec. Et moi, je crois que ces jeunes qui ont vécu toute leur vie déjà un échec, de séparation, de difficultés, il faut essayer peut-être de les mettre une fois dans un endroit où ils réussiront, parce que c'est comme cela qu'on va lui donner l'envie de continuer. Et avec les échecs, on ne donne pas l'envie de continuer.
Achille Renaud?
Je peux pas vous suivre dans cette démarche-là pour la raison très simple que si les syndicats se battent pour une formation professionnelle et la spécialisation des travailleurs de tout milieu, parce que c'est ça qui les rendra autonomes et qui leur donnera le choix vis-à-vis de l'entreprise où ils veulent travailler, et croyez-moi, pour avoir été à une conférence des syndicats européens il y a deux semaines, vis-à-vis de la libre circulation des travailleurs, on ne peut pas encourager ici un apprenti qui a suivi une scolarité obligatoire, qui fait un apprentissage, où on l'encourage à suivre des cours théoriques, à avoir son CFC, à continuer par la suite, dire ceci à ce jeune qui se retrouvera sur une place de travail avec, en concurrence, d'autres jeunes qui auront suivi une simple formation pratique et simplement qui nous obligera, nous, syndicats, à accepter des classes de salaire toujours plus grandes.
Non, mais alors, excusez. OK. Mais alors, donnez-moi une alternative pour demain. Je dirais une majorité des jeunes apprentis entre le travail exploité de manœuvre et voir au noir et puis peut-être un apprentissage pratique. Si vous me trouvez une alternative, ok. Mais parce que c'est ou tout ou rien. Et moi, je pense que le tout ou rien, des fois, il y a le milieu pour ces jeunes-là. Ils ne sont pas 10, ils sont 80, 100, 150 et ça va augmenter le nombre. Alors, trouvons une alternative.
Je pars du point de vue que l'apprentissage est fait beaucoup trop jeune. Que déjà 15 ans, 16 ans, c'est beaucoup trop jeune pour...
Non, mais ils ont 17 à 18, oui. Les miens.
Ils ont 17, 18 ans.
Mais c'est trop jeune pour nos jeunes qui suivent une filière scolaire normale en Suisse. Mais la plupart de ces jeunes commencent à travailler bien avant,
oui.
Dans leur pays ou chez nous.
À 12 ans.
Oui, absolument. Ce n'est pas une raison pour niveler par le bas et faire travailler les jeunes ici aux mêmes conditions que l'Europe. La construction de l'Europe, oui, à condition qu'elle aille vers des améliorations. Si c'est pour adopter certaines normes d'autres pays, non. Je veux dire, ça, c'est le premier point. Une alternative, vous parlez, et vous n'avez pas le monopole de ces jeunes dont vous parlez. Je les côtoie tous les jours. J'en place tous les jours, je m'occupe aussi de leur formation. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu affaire à un ouvrier yougoslave qui m'a demandé de placer son fils. Eh bien, je ne sais pas comment ça se passe à Genève, qui a cette particularité d'être une ville-canton. Peut-être que c'est un peu différent. En tout cas, sur le canton de Vaud, croyez-moi, dans les écoles de collège secondaire et à Lausanne en l'occurrence, il existe des gens plein de bonne volonté qui sont conscients de ce problème-là, qui ne font pas partie forcément du contact des immigrés et qui ont mis sur pied des écoles où j'ai placé ce jeune de 18 ans pendant une année. Il va suivre des cours. On va regarder ce pourquoi il est fait et on va essayer de le conseiller à suivre tel apprentissage ou tel apprentissage. Alors, la pratique, c'est une chose. Elle peut s'apprendre par la suite. Donnons d'abord à ces jeunes dont vous parlez un rattrapage scolaire, puisqu'ils ne l'ont pas eu dans leur pays. Je crois que la Suisse a les moyens financiers d'offrir à ces jeunes des études, une prolongation d'études. Pourquoi les renvoyer déjà aujourd'hui sur un chantier ou sur un lieu de travail? Pourquoi, au contraire, décourageons-les, mettons en évidence le côté de l'école, de la culture générale. Là, vous aurez des chances à un jeune de s'en tirer. L'apprentissage, croyez-moi, j'ai fait mon apprentissage à 20 ans, jusqu'à 23 ans, ça ne m'a pas posé un problème de le faire à 20 ans. Au contraire, je crois que j'en ai beaucoup plus profité, aussi au cours où je me suis levé en classe en disant au prof que je n'acceptais pas ce genre d'enseignement, de dire à des jeunes apprentis, faites ce que vous voulez.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Écoutez, à Genève, on a le CASPO, classe d'accueil secondaire post-obligatoire. Ils y passent une année. Alors, je vous rappelle, et je n'ai pas le monopole des jeunes et personne là. Je dis quand même que vous me parlez et j'entends toujours des jeunes qui sont déjà détenteurs de permis B dans la main, alors qu'il y en a toute une grande catégorie qui n'en sont pas là. Ils font une année de CASPO, classe d'accueil secondaire post-obligatoire, et c'est trop scolaire pour ces jeunes qui, ça fait au moins 5 ans qu'ils ont quitté l'école, qui ont déjà travaillé, et ce n'est pas leur place. Il faut trouver certainement une alternative là aussi. Par exemple, mi-temps école, mi-temps atelier. Je donne un exemple. J'ai dit ce qui se passe aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner et en mettons-nous ensemble pour que demain ça se passe mieux. Parce que je n'ai pas entendu encore aujourd'hui, demain, dans ces 3 années où ces jeunes sont à la rue, qu'est-ce que vous me proposez pour ces jeunes? Genève, le CASPO ne peut pas répondre. C'est trop scolaire pour ces jeunes qui ne sont plus scolaires, qui ont 16, 17, 18 ans et que ça fait trop longtemps qu'ils ont quitté l'école.
Après ça, il n'y a rien de scolaire. Et 3 années pour un jeune, ce n'est pas une chaise qu'on empile, puis on dit, écoute mon grand, attends là, et puis dans quelques années, ça changera. C'est aujourd'hui qu'il risque de partir dans la délinquance, la zone et tout. C'est aujourd'hui et ce n'est pas demain.
Je pense, cela dit, que les jeunes Suisses sont souvent confrontés au problème de cet obstacle premier qui est celui de l'examen de sélection. Dans la mesure où il y a, comme désormais, on veut tout, pousser tout le monde dans les formations intellectuelles. Et ça, je crois que c'est un obstacle pour tout le monde. Ouais. C'est pas seulement pour les bons. Évidemment, oui, oui. Ils sont plus discriminés, les jeunes immigrants dont on parle. Mais je crois qu'il y a de nombreux jeunes Suisses qui aujourd'hui sont assis entre deux chaises parce qu'ils ont à être en concurrence avec des jeunes qui sortent de la première année du collège dans les places d'apprentissage, alors qu'eux sortent de 9e d'un cycle obligatoire et n'arrivent pas à trouver des places d'apprentissage. Je crois que ça, c'est une réalité aussi qui existe. Je ne sais pas si elle est comme ça dans le canton de Vaud. Je connais effectivement plutôt celle de Genève. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans l'ensemble une rediscussion à faire sur le type de formation? Est-ce qu'on veut valoriser les formations professionnelles dans le sens qu'un certain nombre de jeunes puissent y avoir accès, pas trop difficilement, mais qu'en plus, on leur accorde une vraie formation professionnelle au moment où ils ont choisi un métier? Et puis, est-ce que dans ce sens-là, l'Europe va être une ouverture à une telle évolution ou est-ce qu'au contraire, ça va freiner encore plus, à votre avis?
Je pense que l'Europe va être une ouverture dans ce sens parce que ça va être une prise de conscience du manque de formation en Suisse. Ça, c'est le premier point. La seconde chose, que ce soit de l'apprentissage, que je constate que je vois tous les jours, ou les étudiants, le problème est strictement le même. Un collégien qui partira à l'université, qui va acquérir une formation professionnelle, n'a pas plus de chance qu'un apprenti qui a une façon qui obtient son CFC, dans le sens où il y a un décalage total entre les études, donc au niveau universitaire, et le monde du travail.
Non, mais moi je parlais du collégien qui a fait une année de collège, qui arrête et qui se présente aux examens d'entrée aux apprentissages. Hein. Ouais. Je parle de l'accès à l'apprentissage, pas à la fin.
Mmh. Moi j'ai... Bon, évidemment, étant donné que je travaille dans la construction, j'ai affaire toujours à des apprentis qui sortent de ces milieux-là. Je dirais non, au contraire, je crois qu'il y a une... Mais bon, là, c'est clair, on en cherche beaucoup, des apprentis dans ce milieu-là. Je ne crois pas que quelqu'un qui sort de l'école primaire est défavorisé par rapport à un collégien. Donc, en tout cas, je ne peux pas en tirer cette constatation-là parce que ce n'est pas ce que je vois, en tout cas.
Si je prends l'exemple de la France qui fait un effort extraordinaire aujourd'hui pour donner une formation professionnelle à ces jeunes, hein, on crée toutes sortes d'écoles diverses, toutes sortes de formations dans des lieux particuliers, et puis il y a un taux de pourcentage de chômage des jeunes immense quand même. Donc malgré une très grande formation professionnelle donnée en emploi, en usine, dans des lieux spécifiques, on n'arrive pas à trouver des débouchés pour ces jeunes. Alors est-ce que c'est dû à la formation, est-ce que c'est dû à la situation économique? Et est-ce que dans ce sens-là, nous, ça ne nous interroge pas de voir ces images autour de nous, qui est ce à quoi peut-être on va être intégré demain?
Il est particulièrement difficile pour moi de répondre pour la France.
Non, mais c'est l'Europe, c'est ce qu'on nous présente comme étant mieux que ce qui se passe ici. Et je pense que, il y a beaucoup de choses qui peuvent être à la fois des espoirs, c'est vrai, de se bouger par rapport à la situation en Suisse. Et puis, peut-être, ça peut aussi augmenter nos questionnements.
Il y a en France une volonté évidente à l'intérieur des grandes entreprises qui ont les moyens financiers de pousser leurs ouvriers à se perfectionner. Il y a cette volonté de former l'ouvrier toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, mais à l'intérieur de la même entreprise. Chose alors qu'en Suisse, on ne le retrouve pas. Dans certains milieux. Au contraire, on a peut-être... Les entreprises ont peut-être plus intérêt à avoir des gens sous-qualifiés qui vivront avec cette peur permanente de se retrouver sur le marché de l'emploi à la recherche d'une place.
En Italie, par exemple, la formation, l'école obligatoire est jusqu'à 18 ans. C'est plus long que chez nous. Vous avez l'air de dire que c'est un problème qu'un jeune doive choisir à 15 ans. Est-ce que ce serait différent s'il pouvait choisir à 18 ans? Si tout le monde avait 3 années de plus de scolarité obligatoire? Donc, pour prendre de nouveau des exemples qui nous sont offerts par nos pays voisins intégrés à l'Europe. Je ne sais pas, Julien Labriel, vous êtes confronté avec cette situation
Mais oui, je connais peu par rapport à l'Europe, étant moi-même de toute façon italienne. Ça sera un peu la surprise de savoir si vraiment l'Europe sera mieux ou moins bien pour les gens peu ou mal qualifiés. Je crois qu'encore aujourd'hui, ça sera plutôt difficile de répondre. Alors là, moi, je réponds aussi en tant qu'enseignante de l'école primaire d'il y a des années en Italie. C'est une butade, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Je préfère un chômeur avec une bonne culture générale, avec un bon métier, qu'un chômeur manœuvre et non vraiment non qualifié, où il ne peut pas s'en sortir à moi-même, avoir des moyens de comprendre ce qu'il se passe. Dans les syndicats, vous le savez très bien, je suis moi-même syndiquée, on lutte, plus on a un niveau de moyens de lutter, plus on lutte, et plus on est en bas, accablé, avec des tas de soucis, plus on se replie sur soi-même, parce que nos soucis propres sont déjà suffisamment lourds sans qu'on aille ailleurs. Donc c'est un peu dit comme ça, sur un petit nuage, mais en fait c'est aussi une réalité. Je crois, et c'est vrai absolument Catherine, qu'à un certain moment, les jeunes, c'est aussi un problème de classe sociale et pas de nationalité. Et on le retrouve très bien même chez les Italiens qui viennent dans le cadre de l'ONU ou du consulat, eh bien ces enfants-là n'ont pas de problème. L'Italien qui vient, donc fils de manœuvre, a des problèmes, et ainsi de suite. Ce que, pour moi, aujourd'hui, le message, c'est essayons tous ensemble de donner le droit à l'accès à tous les jeunes. Ça serait déjà une toute première victoire, un peu du même style qu'on a donné le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, c'est vrai, c'est un peu plus facile, c'est la charte de droits de l'enfant. Mais dans la charte de droits de l'enfant, on dit aussi, et après il y a le droit moral, de donner aussi une formation. Et je regrette, aujourd'hui, je ne sens pas la volonté ni des institutions comme l'Office de la formation professionnelle et ni malheureusement dans certains milieux syndicaux d'avoir cette volonté. Et c'est ça que le centre veut essayer de dire. On est conscient, on n'est pas sur un nuage, on est conscient que les choses ne sont pas roses pour personne, mais au moins essayons d'éliminer par des syndicats, par l'institution comme la nôtre, le maximum de discrimination. Et après, ça sera pour moi une autre lutte. En fait, nous, on a un peu l'habitude d'enfoncer les portes une derrière l'autre et pas essayer d'enfoncer celle dans 10 ans, alors qu'aujourd'hui, il y en a d'autres tout près qui encore ne pourront pas rentrer sur une bonne formation et tout. Alors, on commence par ce qui est devant moi. Hein, c'est l'accès aujourd'hui qui n'est pas possible. Une fois qu'ils sont dedans, on combattra l'autre problème, et puis ainsi de suite. Parce que pour moi, les jeunes, ce sont des jeunes qui sont là, qui ont le droit à leur chance.
Hélas, le temps coule et nous devons arriver à une conclusion. Alors, j'aimerais peut-être vous demander, chacun dans l'institution où vous vous trouvez, vous Achille Renaud à l'intérieur du syndicat de la FOBB, vous Julien Labriel au centre de contact suisse immigrée, quelles sont les actions possibles que vous voyez ou dans lesquelles vous vous êtes déjà lancé pour essayer d'améliorer la situation de la formation professionnelle des jeunes?
Moi, je dirais, en forme de conclusion, l'accès à la formation, oui, mais quelle formation, avec un grand point d'interrogation.
Donc les syndicats agissent en particulier sur cela?
Nous, on agit dans la formation. Ça ne nous intéresse pas de lancer des gens aujourd'hui, de leur ouvrir toutes les portes à la formation, pour qu'ils se retrouvent eux-mêmes 10 ans plus tard sur le carreau parce qu'ils auront été mal formés. Le travail doit être fait avant l'entrée dans la formation professionnelle, c'est-à-dire mettons sur pied des classes, des cours, permettons-leur de se retrouver, de définir certains choix, et encore une fois, que si ce jeune rentre en apprentissage à 20 ans, ce n'est pas un problème. Donnons-lui les chances de suivre cette formation. Pas qu'il la suive trop vite et qu'il en soit écœuré, parce qu'il le sera très vite, puisqu'il n'aura pas eu cette démarche intellectuelle de se rendre compte pourquoi il l'a fait. Donc après quelques années, il va y avoir un blocage psychologique qui va se faire en disant « Mon avenir, à 25 ans, il est bouché, il est saturé, j'arrête. » Et ces gens-là, il faudra qu'ils se retrouvent des options et des choix, et vous les retrouverez beaucoup plus rapidement sur le trottoir dont vous parliez tout à l'heure. Alors, agissons dans cette formation. Il y aura lundi prochain un résultat concret de l'OFIAMT et je crois que les syndicats ont beaucoup appuyé là-dessus. Rendons d'abord, évidemment qu'il y aura, des gens qui vont, ils en souffrent aujourd'hui, il y en aura encore qui vont en souffrir. Je dis, essayons pour ces gens-là de créer ces classes, mais on ne peut pas, moi je ne crois pas à cette fuite en avant. On allait longtemps dans ce sens-là, c'est-à-dire donnons des formations élémentaires, primaires, n'importe quoi, pour autant que les gens, ça leur donnera toujours un papier, et on ça leur a l'impression qu'en Suisse, les gens ont une qualification. Je pense que maintenant il faut stopper cela, définir la formation et offrir une formation correcte et concrète aux jeunes. Et puis ensuite, et ça c'est un travail de l'État aussi, de permettre aux jeunes d'y accéder.
Non, mais sous le fond, je suis absolument d'accord avec vous. Et je ne suis pas contradictoire là-dessus. J'ai dit, regardons une bonne formation, mais regardons aussi les besoins de la population. C'est une population qui a changé ces dernières années. À 20 ans, à 25 ans, un jeune Suisse, il n'y a aucun problème de faire une formation continue. Restons dans le contexte des jeunes qui ont 18 ans et ça fait 5 ans qu'ils ont déjà travaillé. Donc cela, c'est aussi une réalité. Alors, on lui dit, retourne à un endroit qu'ils n'ont d'ailleurs jamais connu, pour eux et puis pour les familles. Et puis, si tu ne remplis pas cette condition-là, eh bien, j'ai rien d'autre pour toi. C'est un peu ça que j'entends.
Donc, très concrètement, Julien Avriel, le centre de contact Suisse Immigrée met ses priorités sur quel type d'action à ce sujet-là?
Alors, d'abord, qu'il y ait le droit à l'accès, c'est-à-dire du style, par exemple, un permis de formation professionnelle au même titre qu'un permis d'étudiant. Pourquoi pas? Et après, selon les jeunes, leur capacité scolaire, eh bien, de trouver quelque chose qui lui convient. Ce n'est pas un bout de papier, ce n'est pas pour le bout de papier, c'est une certaine reconnaissance d'avoir appris un métier, peut-être un début de métier, et avec les années, si on ne les dégoûte pas, ils vont continuer, ça j'en suis assez sûre, par rapport aux jeunes avec qui je discute.
Je vous remercie infiniment tous les deux, j'espère que vous aurez pu dire tout ce que vous vouliez.
Merci Catherine Hess, notre animatrice à Radio Zone. Et voici donc dans quelques instants la suite de notre programme. Je vous rappelle que si vous désirez avoir une copie de cette cassette, un débat qui s'est tenu à Genève dans le cadre du village alternatif du Salon international du livre de la presse de la capitale calviniste de la Suisse voisine, capitale régionale, bien entendu, vous m'avez compris. Eh bien, je vous conseille tout de suite de composer le 50-40-51-41, je répète, 50-40-51-41-023, depuis la Suisse voisine. Voilà, musique encore pendant une dizaine de minutes et puis on se retrouve pour la suite de notre programme. Jean Pellichon au micro qui vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit ou une excellente journée si vous nous prenez bien sûr en direct ou en différé. Ce programme, je vous le rappelle, avait passé à 17h le vendredi, en reprise 23h, 5h du matin le samedi et à 11h du même samedi. Le village alternatif, quant à lui, se porte bien. Vous le retrouverez à la rue Nietzsche dans le cadre de Palexpo, où il se tient donc à Genève jusqu'au 3 mai prochain. À la rue Nietzsche, vous verrez un très grand ballon. Levez la tête, vous le trouverez sans peine. N'oubliez pas non plus le pins du village au prix modique de 10 francs suisses que vous pouvez obtenir bien entendu en composant aussi le numéro de téléphone du village, le 760 35 06, et puis si vous désirez contacter Radio Zone pendant cette période, vous composez le 760 35 10 pour Radio Zone. Attention pour l'indicatif, c'est en Suisse, donc composez le 022 si vous êtes en Suisse, hors de Genève, et sinon, ma foi, vous connaissez, vous renseignez au PTT. Village alternatif 1992, au Salon international du livre et de la presse à Genève, du 28 avril au 3 mai prochain, de l'Europe à Rio, quels enjeux pour la Suisse? Rue Nietzsche 1 à 35, téléphone le 760-3506 pendant le salon, et bien entendu, pour tout renseignement, à Radio Zone, 5040-5141, 50-40-51-41, 023 depuis la Suisse.
Sont d'un bleu bromotimol. Je vois la vie en mauve. Mes amis meurent tous d'overdose. Le béton, les tours d'acier sont pour moi un fin d'huissier. Je dors dans les escaliers de buildings désinfectés. Je suis le prisonnier. Un mutant de l'ère nucléaire. Mon destin lié à celui de la terre. L'oxygène se fait de plus en plus rare. La survie n'est plus qu'un faible espoir. Un lendemain incertain, quand les sirènes sonnent, les radiations ne sont pas loin. Les
Par Vessalo, une chanson qui colle bien à la réalité, à méditer par tous nos gouvernants technocrates ou aux têtes d'œufs qui sont censés nous gouverner ou nous donner la bonne parole. À bout de souffle, par les Parfaits Salauds, un groupe de rock québécois dans Francophonia sur Radio Zone 93,8 MHz. On continue avec SOS et Trop tard.